Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Emmanuel Macron s'est rendu hier à Rouen pour la première fois depuis l'incendie de l'usine Lubrizol. C'était il y a un mois, le président de la République à la rencontre des habitants pour tenter de les rassurer. Les autres titres, Bernadette.
Un plan pour la Seine-Saint-Denis, Édouard Philippe et cinq de ses ministres dans l'un des départements les plus pauvres de France. Dès l'école, on se sent délaissé, témoignage de jeunes du 93. SNCF, opération déminage avant le 5 décembre, rencontre syndicat direction sur les retraites. À Westminster, départ du bouillonnant speaker John Bercow, portrait tout en cravate bariolée et intervention tonitruante. Nous irons en Californie où les incendies ne cèdent pas un pouce de terrain. Enfin, à Paris, les vampires sortent de l'ombre.
Invité de France Inter ce matin, la SNCF justement, il en sera question à 7h50 avec votre invité Alexandra Ben Saïd.
C'est le secrétaire d'État chargé des transports que peut promettre, que peut mettre sur la table Jean-Baptiste Djebbari. On en parle avec lui à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le nouveau secrétaire général du parti Les Républicains, le député Aurélien Pradier. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et sur l'application France Inter.
France Inter. Une heure et demie dans les rues de Rouen hier soir à la rencontre des habitants. Il fallait bien ça à Emmanuel Macron pour tenter de rassurer une population très inquiète un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Inquiétude et colère contre des responsables qu'elle juge défaillants. À commencer par le premier d'entre eux, Julie-Marie Lecomte.
Un mois depuis l'accident des sifflets cueille d'abord le président, les habitants trouvent qu'il a mis bien trop longtemps à se déplacer.
Je suis en colère, mais je le dis avec courtoisie.
Je vous remercie de me dire voilà. Avec courtoisie. Et je comprends très bien la colère quand on a vécu ce que vous avez vécu.
J'ai été très, très secouée par Lubrizol et on s'est senti abandonné, littéralement.
Monsieur le Président, on a eu très peur. Hein.
Je sais.
Très, très peur. Il ne faut pas mettre autant de temps que ça, Monsieur le Président.
Mais j'essaie de à peu près savoir à quel moment je dois faire les choses. Faites-moi confiance.
Et rétablir la confiance, c'est justement le grand défi.
Le gouvernement a été mobilisé.
Mais ça ne s'est pas vu ni ressenti. Et aujourd'hui, après, on ne sait toujours pas quelles vont être les retombées. Il n'y a pas eu de suivi. Clairement, on a été abandonné. En tout cas, c'est ce qu'on ressent.
Emmanuel Macron s'engage à tirer les leçons de ce qui s'est passé.
On apprend, on peut toujours s'améliorer, on va le faire. Continuez à être très vigilant et moi j'entends les inquiétudes qui malgré tout demeurent chez certains.
Il tente de parler avenir, promet d'organiser à Rouen l'an prochain un sommet ou une rencontre avec un homologue étranger pour redorer l'image de la ville.
Franchement, rester à Rouen pour moi aujourd'hui ce n'est pas une solution, en tout cas pour mes enfants. Je préfère les éloigner.
Je n'ai pas jugé, mais voilà, on va continuer à accompagner.
Engagement pris hier soir, les toutes premières indemnisations seront versées d'ici la mi-novembre.
D'ici le 18 novembre, premières indemnisations aux agriculteurs et aux commerçants. Et puis sur franceinter.fr, un dossier complet sur Lubrizol.
La suite du journal Vivre et travailler en Seine-Saint-Denis, l'État présente son plan, Bernadette.
Et il le fait de manière spectaculaire. Le Premier ministre se rend sur place aujourd'hui, accompagné de pas moins de 5 ministres. Justice, santé, logement, éducation, intérieur. Tous les secteurs sur lesquels le gouvernement entend agir, à commencer par les jeunes qui très tôt ont un fort sentiment d'inégalité. Adjira Mohamed est allée à leur rencontre.
Chloé a 17 ans, elle a grandi au Pré-Saint-Gervais et la première des inégalités, c'est en classe qu'elle a vécu.
Moi par exemple, ma prof de français l'année dernière, sachant que j'avais le bac de français, elle a été absente pendant un mois et elle a été remplacée au bout d'un mois. Et donc les profs en fait qui arrivent, ils essayent de faire comme ils peuvent. Ils reprennent un peu les pots cassés. Du coup, la fin du programme, elle a été un peu bâclée par exemple.
En Seine-Saint-Denis, un élève perd en moyenne une année de temps scolaire à cause des professeurs absents et pas remplacés. Et puis il y a la violence aussi, le sentiment d'insécurité pour John.
Sortir le soir, on a peur de se faire agresser. Moi ça m'est arrivé, ça m'a un peu traumatisé. Dans mon lycée, on n'a pas eu cours pendant 2 semaines parce qu'il y a un adolescent de 15 ans qui a été poignardé. Je trouve ça grave quand même. Donc voilà, j'en ai marre, j'en peux plus.
Mais la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas que ça pour Camille, agacée par la stigmatisation.
Par exemple, vous allez voir dans Paris, dans le 16e, etc. Pensez quoi du 93? Délinquance, violence. Mais c'est pas de leur faute, c'est ce qu'on remet à la télé.
Le garçon est scolarisé dans un lycée parisien privé, un souhait de ses parents pour augmenter ses chances. Et il a sa théorie sur son département.
En fait, il n'y a pas de diversité sociale, il n'y a pas de mixité sociale. C'est sur ça qu'il y a un problème.
Et comment on a créé la mixité alors?
La mixité sociale, c'est en faisant par exemple des avocats qui peuvent vivre avec des ouvriers dans le même bâtiment sans qu'il y ait de problème. Sauf que là, on a fait la distinction dès le début.
Est-ce qu'on peut rattraper ce retard alors?
Là, honnêtement, c'est impossible de rattraper ce retard. C'est impossible.
Malgré tout, Camille ne veut pas quitter son 9-3. Il y tient. Et puis, si l'État ne change rien, dit-il, nous, on peut toujours essayer.
Un reportage d'Adjera Mohamed, donc un plan en 23 points avec une idée forte notamment que les fonctionnaires aient envie de rester en Seine-Saint-Denis. Il y aura donc une prime de 10 000 euros pour ceux qui seront là depuis 5 ans. Le plan en détail dans le journal de 8 heures. Un bond de 9,5% l'action Fiat Chrysler hier à la bourse de Milan. Hausse de PSA 4,5% qui participe à une clôture record de la bourse de Paris au plus haut depuis 2007. PSA et Fiat Chrysler ont officialisé les négociations en vue d'un rapprochement qui donnerait naissance au quatrième groupe mondial de l'automobile. Le secrétaire d'État au transport n'accompagnera pas le Premier ministre en Seine-Saint-Denis ce matin. Il a une bonne excuse. Mission baisse de tension à la SNCF et notamment avec le haut commissaire aux retraites. Il reçoit ce matin les syndicats de cheminots, enfin une partie des syndicats, Raphaël Ebenstein, car la CGT et Sudrail boycottent le rendez-vous.
L'opération déminage du gouvernement se poursuit pour tenter d'éviter ou au moins d'atténuer l'impact d'une grève illimitée à la RATP et à la SNCF à partir du 5 décembre. Mais comme le résume Laurent Brand, le secrétaire général de la CGT Cheminot, pour justifier son absence, ce service après-vente de la future réforme des retraites est obscène dans le contexte social que nous connaissons. Un avis peu ou prou partagé par Sudrail. Et ce ne sont pas les derniers propos d'Emmanuel Macron, laissant entendre que la réforme pourrait ne s'appliquer qu'aux seuls nouveaux embauchés, qui changent quoi que ce soit aux yeux de Fabien Dumas, l'un des secrétaires fédéraux de Sudrail.
Emmanuel Macron, en gros, il nous dit « comme ça vous touche pas vous, vous n'avez pas d'enfants, puis vous pensez absolument pas aux générations futures, en fait vous pensez qu'à vous, donc ne faites pas grève et ne luttez pas ». C'est pas comme ça que nous on l'entend, évidemment.
Le ton est quand même moins virulent de la part des deux syndicats présents ce matin, l'UNSA et la CFDT, les seuls en réalité que le gouvernement espère pouvoir convaincre de ne pas s'associer à la grève en décembre. Mais cela supposera forcément des compensations, notamment une reconnaissance de la pénibilité en cas d'abandon des régimes spéciaux. Les discussions promettent déjà d'être longues sur ce point.
Et pour l'axe TGV Atlantique, la direction de la SNCF prévoit pour tout le week-end 8 TGV sur 10. Claude Cinquet, l'octogénaire qui a blessé 2 personnes dans son attaque contre la mosquée de Bayonne, est mis en examen pour tentative d'assassinat, pas pour attentat terroriste, ce qui choque l'avocat des victimes qui demande que le parquet national antiterroriste soit saisi. 7 policiers désarmés signalés pour radicalisation depuis l'attaque à la préfecture de police de Paris, auditionné par la commission d'enquête parlementaire. Le préfet de police de Paris a également précisé qu'au total, 33 policiers avaient été signalés. Une enquête plus approfondie va être menée. Didier Lallemand propose également la création d'une plateforme de signalement national.
7h08, la suite du journal et des scènes d'apocalypse en Californie où le feu a repris de la vigueur hier.
Après une légère accalmie de quelques heures, les milliers de pompiers sont repartis au combat. Au nord de San Francisco, près de Los Angeles, où 2 nouveaux incendies se sont déclarés hier. Loïc Piala.
Les environs de Los Angeles avaient des airs d'apocalypse hier. Des chevaux paniqués que leurs propriétaires tentent de calmer au milieu des bourrasques. À 100 km de là, des personnes âgées attendant dans la poussière d'être évacuées de leur maison de retraite sous la menace des flammes. Des vents assez forts pour secouer des poids lourds sur l'autoroute. Et puis, cette image de la statue de Ronald Reagan à cheval, masquée par une épaisse fumée orangée. La statue trône à l'entrée de la Reagan Library, un musée dédié à l'ancien président américain construit tout en haut d'un ravin. Le feu s'est approché à moins de 30 mètres. Les 800 pompiers mobilisés contre le Easy Fire ont préservé l'édifice, l'un des monuments emblématiques de la région, abritant des archives inestimables. Les vents d'une vitesse pas vue ici depuis plus de 10 ans vont continuer à souffler jusqu'à la fin de l'après-midi. Leur force limite l'efficacité des moyens aériens et la précision des largages. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et puis au Pakistan, on a appris ce matin l'incendie d'un train de passagers. Il y aurait au moins 65 morts. Un mois seulement avant sa tenue, la COP25 annulée au Chili pour cause de crise sociale. Les Chiliens qui manifestent depuis des jours sont satisfaits. Il n'est pas possible, disent-ils, d'organiser un sommet alors qu'on nous tire dessus dans la rue. Plusieurs noms de points de chute circulent, le Costa Rica ou encore Bonn en Allemagne. Un fauteuil vert qui va rester vide. Dernier jour à Westminster pour John Bercow. Le speaker, autrement dit le président de la Chambre des communes, quitte son poste après une décennie passée assis face aux députés sur son fauteuil. Enfin, pas toujours assis très tranquillement. Hein. Beaucoup de bonds et d'interventions musclées. Il a aussi profondément changé le fonctionnement de la démocratie anglaise, Antoine Gignot.
C'est évidemment le rappel à l'ordre le plus célèbre de l'histoire.
Oh,
repris, parodié, remixé. Mais John Bercow, avec ses cravates flamboyantes, reste surtout l'homme qui, en 10 ans, a modernisé le Parlement en remettant au goût du jour les questions urgentes pour obliger les ministres à venir s'expliquer face aux députés sans ménagement.
Le Premier ministre a fini de parler et il peut me croire, c'est moi qui le lui dis, c'est fini.
Plus que ses prédécesseurs, le président du Parlement a pris des positions tranchées sur des sujets de politique intérieure et étrangère.
Je suis encore plus opposé qu'avant à un discours de Donald Trump.
Ses interventions, enfin, pour empêcher Theresa May puis Boris Johnson de présenter à plusieurs reprises leur projet de loi sur le Brexit, ont fait de lui un héros pour les europhiles, un traître pour les autres. Rob Wilson, ancien député, journaliste au Télégraphe.
Il est devenu partisan. Ce n'est pas bien pour le Parlement. Il a pris parti dans les débats et avantagé un camp au détriment de l'autre.
Ce n'est pas la seule accusation. Son secrétaire dénonce aussi des vexations, des remarques et parle de harcèlement moral. Allégation rejetée par la commission parlementaire qui a choisi de ne pas enquêter sur le sujet.
Order.
Londres. Antoine Gignot, France Inter.
Sans aucun lien, Halloween, c'est le jour ou jamais pour se faire peur. À Paris, les vampires sortent de l'ombre. Exposition à la Cinémathèque, vampire de Dracula à Buffy, où le lien indéfectible entre cinéma et ce mythe, Jacqueline Petroz l'a vu.
Des lumières vacillantes, un couloir étroit, derrière une fenêtre, une silhouette tout en noir.
I am Dracula.
Littérature, peinture, série télé, Dracula, Nosferatu, quel que soit son nom, le vampire hante notre imaginaire sans interruption depuis des siècles et le cinéma est le reflet qu'il n'a pas. Mathieu Orléans, commissaire de l'exposition.
Le cinéma, c'est vraiment l'art des métamorphoses qui rend possible par la technique, par le mouvement, toutes les transformations du vampire en animal, en objet, en fumée. Il ne faut pas oublier que le cinéma se projette aussi dans le noir, on parle de salles obscures. Si on tire la métaphore, il semblerait que le vampire ait trouvé dans la salle de cinéma son nouveau château moderne, son nouveau terrain de jeu.
Si la figure du vampire est aussi une caricature politique, le cinéma ne pouvait ignorer son aura sensuelle.
Cet acte de la morsure, évidemment, est une métaphore de l'acte sexuel. C'est vrai qu'il y a quelque chose du coup de très érotique. Alors dans certains films, je pense aux films américains des années 30-40, la sexualité, elle est entre les lignes. Et puis après, il y a quand même eu des grands metteurs en scène qui, effectivement, vont assez loin dans le trouble qui va avec, dans le désir, dans le rapport amour et mort, amour et destruction. C'est ça le cœur du vampirisme.
Murnau, Coppola, Polanski, Lugosi, Deneuve, Buffy, Twilight. Dans chaque salle, la fascination monte en puissance et on en sort agréablement effrayé.
Eh bien, la morsure de la honte, c'est l'OM qui l'a cruellement senti hier. Marseille éliminé de la Coupe de la Ligue dès les 16e de finale, battu à Monaco 2-1.